Simple Colombe, Mémoire d'une novice récidiviste, première partie, premier pas sur la planète Terre, enfance. La ferme de mes grands-parents. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je revois la vieille ferme de mes grands-parents paternels. C'est un mélange de sensations et d'émotions. Meuglements impressionnants des vaches, taupinières dont le chapelet s'égrenait dans les prés, petits lapins intouchables et pourtant si mignons dans leurs clapiers, chats tigrés chassant dans les hautes herbes, fientes des poules sur lesquelles j'évitais de poser mes souliers vernis. Il y avait aussi les pensées veloutées dans leurs bacs de pierre, les géraniums des escaliers interminables, les quilles que mémé suspendait aux branches pour amuser les enfants, le splendide cerisier bigarreau, les arbres fruitiers tout tordus du verger et les deux jardins potagers. Sans oublier les tables moites, pleines de toiles d'araignées, l'écurie où les hérissons se cachaient parfois dans le foin qui pique et la poussière, le tas de fumier à côté du mur de pierre, le bûcher austère si bien aligné, les pavés ronds devant la maison et le feu devant le fourneau noirci. Odeur des lilas, des bousses de vache, de la lavande séchée et des roses, odeur du feu de bois, l'air de la campagne et son calme. Mes grands-parents, agriculteurs parmi tant d'autres, habitaient dans une petite commune de l'Ain, non loin de la ville de Gex, qui gardait alors un charme suranné et des dimensions modestes. À l'ouest, la chaîne du Jura toute proche barrait le regard d'une bande bleutée. À 20 kilomètres au sud, le bassin lémanique affichait le déploiement urbain de Genève et de ses lumières artificielles. Dans la cuisine spartiate, où les mouches valsaient, mon grand-père Georges siégeait comme un roi une fois son travail terminé. Je revois ses mains noueuses posées sur ses genoux, et ses pieds, arrimés par de lourds brodequins, semblant tenir le sol. De fait, cet homme, toujours vêtu de bleu, avait la noblesse naturelle d'un travailleur qui a fait son devoir de la journée et ne vit pas au crochet d'autrui. Rien de factice ou d'emprunté dans cette noblesse-là. Sa bouche fermée sous sa moustache bien taillée gardait en général le silence des vieux sages, mais ses yeux très vifs qui pétillaient trahissaient son attention et son sens de l'humour. Bien sûr, il pouvait sembler sévère à première vue, mais pour ma part, je n'avais pas peur de lui. Son regard démentait trop cette impression. C'était toutefois un homme pourvu d'une autorité naturelle et qui imposait le respect malgré sa grande maigreur et sa taille modeste. Mon frère cadet, enfant plus remuant que moi, doit se rappeler les fois où il se faisait interpeller par un « tout de même » tonitruant qui le paralysait sur place. J'en ris encore. Esprit très curieux, notre grand-père se tenait étroitement informé par des journaux et des magazines sérieux. Le monde, au sens à la fois urbain, social et international du mot, semblait alors débarquer dans cette ferme modeste et s'imposer dans un violent contraste. Quel point commun, en effet, entre la vie confortable et agitée d'hommes d'affaires prospères et la vie sobre, laborieuse et régulière des paysans de cette époque. Quel point commun entre les mannequins glamour des publicités pour parfums de luxe, superficiels jusqu'au bout des cils, et ma grand-mère, digne et vraie, vêtue d'un tablier quelconque, aux mains usées par le travail. J'aimais d'ailleurs beaucoup ma grand-mère paternelle, Mémé Valérie. Elle s'appelait en fait Marie-Valérie de son nom de baptême. Tous ses frères, aussi bien que ses sœurs, et il n'était pas moins de 12, ayant reçu par dévotion mariale le prénom de Marie. N'ayant eu que des garçons, 4 au total, elle appréciait doublement la relation avec ses petites filles. Femme plantureuse et déterminée, dure à la tâche, estimée dans la région, elle avait travaillé dans le commerce étant jeune. Sa tête était couronnée d'une abondante chevelure un peu crépue, blonde à l'origine, qu'elle relevait en chignon. Sous cette sorte d'auréole devenue blanche, on découvrait des yeux bleus directs, un front serein, des joues pleines sous une peau de pêche très douce. J'aimais aussi son goût original pour la philatélie, son sens artistique qui lui faisait orner son intérieur de sous-verres multiples et de minuscules statuettes chinoises bien alignées, sa foi qui transparaissait discrètement à l'occasion. Elle prenait des airs de conspirateur pour nous emmener, mon frère et moi, au salon afin d'exhumer devant nous, sous une pile de mouchoirs bien repassés aux odeurs de lavande, des tablettes de chocolat qu'elle nous destinait. Je n'ai jamais su si ces airs de cachotterie étaient un simple artifice théâtral ou si mon terrible grand-père aurait mal vu le don des petits carreaux suisses qui faisaient nos délices. Avec cela, elle avait le souci de notre éducation. Je me rappelle qu'une fois, âgé de 3 ou 4 ans, batifolant dans le pré en sa compagnie, je répétais un gros mot sans le comprendre. Elle me déclara gravement « Florence, tu fais de la peine au petit Jésus ». Comme foudroyé par la remarque, j'avais envie de pleurer sans comprendre. Quel rapport mystérieux y avait-il donc entre le petit Jésus, ce petit bébé tout gentil de la crèche, dont la maman s'appelle Marie, et un mot de ma bouche? Mais mine de rien, la réflexion fit son chemin. Je perçus alors en filigrane que nos actes et nos paroles ne sont pas indifférents, qu'ils ont des retentissements visibles et invisibles dont nous ne mesurons pas toujours les conséquences. Avec mon autre grand-mère, la relation était beaucoup moins riche. Elle ne s'adressait presque jamais à nous, les enfants, et sa personnalité plus effacée ne la rendait pas attirante pour moi. À son contact, j'aurais pu devenir, au contraire, la féministe la plus enragée qui soit. Par contre, son mari, mon grand-père maternel, sut nouer avec moi une complicité originale. Pépé Albert était originaire du canton de Fribourg, en Suisse, et très humble et pieux, malgré toutes les faiblesses qu'on pouvait lui reprocher, à tort ou à raison par ailleurs. Il était d'un naturel jovial et insouciant, que ses 10 enfants ne réussirent pas à altérer. Élevé par une mère tertiaire de Saint-François d'Assise, il appréciait par-dessus tout que je lui lise la Bible et m'entretienne avec lui des pères de l'Église et des saints, conversation taboue évidemment avec le reste de la famille. Quand je lui avouai mon appel pour la vie de carmélite, il sortit son chéquier et me déclara qu'il me donnerait tout ce qui était nécessaire pour la dot. Mais heureusement pour ses finances, les dots n'étaient plus en usage. Il voyait les consacrer, selon le vieux cliché qui a ses limites, comme des paratonnerres pour une famille.